L'erreur est urbaine sur 48 FM, c'est l'émission mensuelle qui vous parle d'urbanisme, d'architecture et de patrimoine. Toujours une thématique en particulier, ici on va parler d'agriculture urbaine. Donc l'erreur est urbaine, on parle pour le mois de mai de 10h à midi, donc d'agriculture urbaine. On se retrouve un samedi sur deux, toujours sur votre onde préférée, 48 FM. Aujourd'hui, c'était forcément en lien avec un festival qui vient tout juste de commencer. C'est la 5e édition cette année. C'est sur Liège, c'est Nourrir Liège du 6 au 16 mai. On parle de comment nourrir toute cette ville, comment être résilient en termes d'alimentation, comment faire une agriculture raisonnée. On va en parler avec nos chroniqueurs et chroniqueuses et invitées. Donc, je dis un peu bonjour à tout le monde. Je les présente pour aujourd'hui. Donc, on aura Diana et Gilles qui interviendront en premier. Bonjour à vous deux.
Salut!
Bonjour, merci d'être avec nous. Il y a également Émilie. On va parler avec toi en deuxième partie d'émission, justement de Nourrir Liège avec les incroyables comestibles de Liège. Bonjour à toi.
Salut!
Et on termine avec, elle nous avait manqué, mais la marquise est de retour. Bonjour marquise, merci Mathilde.
Bonjour les gueux, moi aussi vous m'avez manqué. Oui, je n'étais pas là ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de mondanité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, en France, on a beaucoup pratiqué le restaurant clandestin entre gens de la Haute ces derniers temps. Voilà, nourrir Liège, ce n'était pas spécialement notre souci.
Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler peut-être de vos péripéties dans le restaurant clandestin. On verra ça en
Ah non,
dernière
pas du tout, pas du tout,
partie.
mais
Pas
c'est
du
pas
tout.
grave.
On verra ça avec vous tout à l'heure. Merci en tout cas d'être là. J'embraye très rapidement. On a Diana et Gilles qui vont nous parler forcément. Donc je laisse un peu d'espace. Pour le présenter largement mieux que moi, mais forcément, quand on parle de nourrir Liège, on parle de la ville et Urbagora sera également présent sur le festival. Pas mal d'animations sont prévues. La liste est longue. Je vous invite forcément à venir directement sur le site de nourrirliège.be et je laisse mes camarades d'Urbagora présenter peut-être un petit peu plus ce festival et les interventions qui seront prévues par Urbagora.
Urbagora organise un événement là, le lundi 10 mai. Ça s'appelle Penser le territoire urbain au siècle des limites. Il s'agit d'une rencontre entre la revue Dérivation et les éditions Wild Project. Les éditions Wild Project sont spécialisées dans l'écologie, les humanités écologiques. C'est comme ça qu'ils se présentent parfois sur leur site ou dans leur ligne éditoriale. C'est de ça dont il s'agit. Donc on se réunira au Cinéma Souvenir à partir de 18h30. Suivez toujours notre événement Facebook ou les actualités du festival parce que vu les mesures Covid, ce sont des données qui pourraient être modifiées. Voilà, en fonction de comment on peut se réunir puisque ben, voilà, on doit organiser les événements en extérieur et ça dépend un petit peu des conditions météo. Donc voilà, il y aura ce premier événement-là qui est prévu et puis alors une balade qui nous intéresse plus spécialement en lien avec l'émission d'aujourd'hui. Donc c'est peut-être plus intéressant de se consacrer là-dessus. Une randonnée urbaine qui s'appelle Par où ça pousse, qui va nous être racontée par, ou en tout cas nous être introduite par Gilles, là, dans quelques instants. Et puis, donc, cette randonnée, bah, en fait, elle est déjà complète. Donc, on s'est dit qu'on allait offrir l'opportunité à tout le monde de pouvoir la parcourir en autonomie. Et donc, pendant toute la durée du festival, vous avez la possibilité de suivre le balisage qui aura été mis en place spécialement pour cet événement-là. Et puis, donc voilà, vous pourrez retrouver des informations à ce sujet sur le QG du festival. Et donc, voilà, Gilles, je te laisse expliquer de quoi il s'agit.
Alors, d'abord, j'aime autant préciser qu'il s'agit, à proprement parler, plutôt d'une randonnée urbaine et non pas d'une balade, parce que c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment prévoir la journée. Ça fait un peu plus de 15 km et on monte sur les collines de part et d'autre de la vallée de la Meuse. Il y a d'ailleurs plusieurs assez belles vues au passage. Mais donc, c'est une vraie journée de marche, quoi. Enfin, une petite journée de marche, on va dire. Et donc, une petite journée de marche dans laquelle on vous invite à découvrir toute une série d'initiatives les plus diverses possibles de lieux où se passe aujourd'hui l'agriculture urbaine sous toutes ses formes. À savoir que on passe, si je le prends dans l'ordre historique, on passe par les potagers de Bressou, qui donc datent de la fin des années 1920, des bons vieux jardins ouvriers, et qui ont gardé cette forme-là, et on va découvrir le futur jardin de la Porte aux Oies, qui n'est pour l'instant qu'un terrain vague, mais donc on présentera ce projet-là aussi. Autant que possible, sur chaque endroit, il y aura des personnes impliquées directement dans le projet qui seront là pour nous présenter la chose. On va passer également dans un jardin qui est actuellement une forêt comestible en devenir, puisque on en est encore. Enfin, il y a quelques arbres sur place, mais on en est encore à la plantation. Et également chez les Pousse-Pousse, donc un projet de maraîchage aussi vraiment en ville. Voilà, donc. Une bonne journée de marche, plein d'autres petits trucs qu'on croise en chemin, des potagers divers et sous diverses formes. Et on se réjouit de faire ça avec ceux qui ont déjà donc eu l'occasion de s'inscrire. Mais comme le disait Diana, on a balisé, on termine demain, à vrai dire. Non, ce sera fait, pardon. À l'heure où on enregistre l'émission, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Mais donc, il y a un balisage et une petite carte qui sont disponibles. La carte étant accessible au QG de Nourrir Liège, place Cathédrale, endroit d'où part la balade. Et alors, l'autre événement qu'on organise donc, ce lundi, en collaboration avec la librairie Livre au Trésor, mais ça se passe pour finir au Grignou suite aux mesures sanitaires. Et donc, cet événement, quelle est, je dirais, la genèse de cet événement? Comme ça nous permet d'enchaîner directement vers, je dirais, le deuxième sujet de l'émission. C'est la rencontre des éditions Wild Project dans le cadre d'un projet européen qu'on fait avec eux, pas vraiment, en fait, c'est les mêmes gens qui sont dans le projet européen au nom d'une autre association, on va dire. Mais ces éditions, donc, qui publient, comme le disait Diana, énormément de textes de penseurs de l'écologie, y compris des textes assez, enfin, du courant du XXe siècle. Et donc, cette rencontre sera l'occasion de confronter, en fait, un peu des points de vue qui sont, pour finir, assez différents entre ce que défend, je dirais, pour l'instant, aux éditions Wild Project, ils sont beaucoup sur l'idée de biorégionalisme. Et voilà, ce sont des choses qui sont quelque part un petit peu contestées dans le dossier de dérivation. Donc ça va donner lieu, à mon avis, à des échanges fort intéressants. Mais donc je revenais sur cet événement-ci aussi pour faire le lien avec le projet européen Ville Terrestre dans lequel on est impliqué et dont on avait envie de parler un peu ici aussi. Donc grosso modo, c'est une une collaboration entre cinq associations, donc Urbagora à Liège, deux associations marseillaises, à savoir la Cité de l'Agriculture et les Sentiers Métropolitains, qui sont donc un peu la même bande que les éditions Wild Project, comme je le disais. Et encore deux associations dont j'ai oublié le nom, Diana pourra peut-être m'aider.
Il y a Il Mercato Ritrovato, c'est une association qui est basée à Bologne. Et je pense que je ne suis pas extrême bilingue espagnole. Ça s'appelle Área Metropolitana. C'est une association qui est basée à Barcelone cette fois-ci. Donc l'Italie, la France, l'Espagne et puis la Belgique s'associent sur ce projet Erasmus+, hein, donc financé par l'Europe, sur le thème de l'agriculture urbaine.
Et même plus généralement, je dirais, de l'avenir des villes. Mais vraiment dans le but de à la fois rassembler un petit peu des contenus théoriques, à la fois rassembler des initiatives qui nous semblent inspirantes sur ce thème-là, sur le thème de l'avenir de la ville, un petit peu revenir aussi sur l'histoire des luttes à ce sujet-là. Et tout ça, a priori, à destination des personnes qui font, pensent et décident la ville. Donc, d'une part, des politiques ou des personnes dans les administrations, mais également des associations qui traiteraient ce genre de sujet, des cabinets d'urbanisme, d'architecture, etc. Donc, ce n'est pas spécifique.
Des techniciens aussi, les gens de terrain qui peuvent participer à cette fabrique de la ville.
En partant un peu du constat que les urbanistes qui essayent de penser la ville écologique, généralement, ne sont pas écologues et donc peuvent se fourvoyer à ce niveau-là. Et réciproquement, les écologues qui étudient et analysent la ville et son avenir au niveau naturel émettent des idées, mais sans se rendre bien compte des réalités urbanistiques de la question.
Et donc, voilà. Vous arrivez à toucher les personnes qui impulsent des décisions ou qui sont dans l'action, quoi.
Normalement, donc on est en plein travail, dans des gros débats aussi. On a des positions des aspirations assez similaires, mais parfois des réflexions différentes sur la manière de mettre ça en place. Donc ça donne lieu à des tas de débats que je trouve très riches, moi. Et l'objectif, c'est donc d'avoir une production écrite, mais qui sera probablement sous forme d'une anthologie, donc des sujets que je citais avant, et puis des vidéos, et également un jeu de société, peut-être même pour finir deux. C'est encore à voir, mais je ne sais pas où on va là-dessus. Mais donc tout ça, c'est un projet qui nous occupe donc pour les deux années à venir. On en parle ici aussi, parce que on est demandeur de retours et de réflexions et de personnes qui auraient envie de contribuer à cette réflexion. On a déjà quelques personnes qui gravitent autour d'Urbagora qui nous ont marqué leur intérêt pour la chose et qui vont nous aider à avancer dans un truc qui soit un peu intelligent, puisque je pense qu'il y a actuellement beaucoup de publications sur l'avenir des villes. Enfin voilà, on essaye d'avoir un truc qui tienne la route, d'où ces débats assez puissants parfois. Quelque chose à rajouter, Diana ?
Et puis on parlait du thème du festival Nourrir Liège cette année, qui est alimentation et précarité. Et en fait, à travers ce projet aussi, on aimerait remettre l'accent sur l'aspect social, ou en tout cas ne pas oublier que l'écologie ne peut pas faire fi des personnes et des sociétés qui vont être impactées par les décisions qui vont être prises ou qui devraient être prises. Et donc inclure cette dimension sociale, revenir au lien social aussi, permettre au lien social de s'incarner et de s'épanouir peut-être, ou de se réinventer à travers la réinvention des villes, de notre manière d'habiter les villes, de notre manière d'habiter les alentours des villes. Parce que la ville, quand on parle des villes, on parle souvent, on pense souvent au centre urbain, voilà, on est dans Liège, les quartiers de Liège centraux, Saint-Léonard, le Londo. Mais en fait, la ville, ça ne se limite pas, en tout cas, à plus large échelle aussi, hein, puisque notre propos ne se limite pas à la ville de Liège, mais donc les villes, ça implique aussi de réfléchir à tout ce qui est plus lointain, mais qui est aussi ville. Donc quand on est à Ans, on est aussi à Liège, quand on est dans certaines villes moyennes, on est aussi dans des villes. Et donc, re-réfléchir le lien, cette espèce de triangle entre personne, individu, dynamique, et puis alors, alimentation, agriculture, et puis enfin, en troisième lieu, architecture, aménagement du territoire, ville. Re-réfléchir à tout ça, ça nous semble essentiel. Et donc, on a pu déjà faire une première visite, un premier séjour là, puisqu'on est amené à se rencontrer pour développer ce projet, développer ces diverses productions. Donc on a été amené à aller à Marseille, où on a découvert plusieurs projets, plusieurs initiatives dynamiques, etc. Et il nous a semblé que tout ça pouvait faire lien, pouvait se... entrer en résonance aussi avec la thématique centrale du Festival Nourrir Liège. Donc voilà, on avait envie d'en parler aujourd'hui. Et puis, on souhaite aller plus loin sur ces réflexions. On souhaite que les personnes qui nous écoutent ou les personnes qui ont des idées nous donnent un peu, nous participent peut-être, nous donnent leur retour sur ça, sur ce lien entre l'humain et la nature, en fait. Et souvent, on parle de reconnexion à la nature, alors qu'on est soi-même une partie de la nature, et on peut peut-être l'oublier. Voilà, qu'est-ce que ça signifie, se reconnecter à la nature? Qu'est-ce que c'est, se reconnecter à la ville? Pourquoi certains arrivent à un moment donné dans leur existence à une saturation par rapport à l'espace urbain et ressentent le besoin d'aller vers d'autres territoires? Et là, du coup, ça permet de revenir, je reviens vers la rencontre qui va avoir lieu ce 10 mai entre Wild Project et Dérivation, puisque c'est un thème, ce retour à la Terre qui sera évoqué. Et là, Gilles, peut-être que tu penses à d'autres choses.
Non, je ne sais pas si on a envie de s'étendre plus sur le sujet, si certains... ici autour de la table, entre guillemets, la table virtuelle, aurait des questions à poser sur ce qu'on fait. Ça me donnait presque envie de raconter, quand tu parlais du voyage à Marseille, de raconter l'après-M, qui est quand même un endroit qui m'a laissé une empreinte forte et qui est, je trouve, fort en lien avec cette histoire de alimentation et précarité.
Mais, ouais. Tu veux expliquer rapidement ce que c'est comme endroit?
Je ne sais pas, Alexandre, on tout continue. Monde ne
sait, ouais, je pense, je suis pour en tout cas. Prenons le temps de parler de ça, ouais, je pense que c'est intéressant.
Ben, l'après.
Vous connaissez l'après M? Certains d'entre vous en ont entendu parler ou pas?
Pour le coup,
si
non.
Si je dis McDonald's avec le S.
Ah, ouais, ouais.
Ça veut dire quelque chose?
Oui.
Donc en fait,
c'est...
les McDo, c'est des endroits comme ça qui peuvent être réinvestis et détournés quand les gens s'emparent d'un lieu et recréer toute une dynamique autour de l'aide alimentaire. Surtout en temps de Covid. Si vous ne connaissez pas, allez faire, faites vos petites recherches.
Oui, mais je vais rapidement raconter quand même, parce que maintenant, on a un peu trop teasé.
Raconte-nous, Gilles, raconte-nous.
Oui, vite fait. C'est donc un McDonald's à Marseille qui a été ouvert à une époque où McDonald's avait une politique pour ouvrir des McDo dans les quartiers, comme on dit. Je pense aussi des grosses subs hein, pour faire ça, des grosses subventions. Donc un McDonald's qui était devenu, du temps où il tournait, vraiment le seul lieu de socialisation qui restait dans le quartier. Plus aucun café, plus aucun... Donc l'école des devoirs se passait là-bas. Quand les gens allaient boire un café, c'était sur la terrasse du McDo. Et par ailleurs, c'est un endroit où les ouvriers sont... Enfin, les employés sont restés, je ne sais pas exactement pour quelles raisons, plus durablement que les employés de McDo sur lesquels il y a d'habitude un turnover pas possible. Et donc, qui ont commencé à mener un peu des luttes syndicales, qui ont obtenu plein, je fais vite parce que, qui ont obtenu plein de mesures, de conditions d'emploi nettement plus correctes que d'habitude dans les McDo. Et puis ça a commencé à faire tache d'huile en France et même à l'international. Donc, et eux diffusaient leurs actions. Et donc, McDo a souhaité fermer. Et ils ont entamé un procès qu'ils ont gagné pour avoir des dédommagements assez corrects. Sauf qu'il y a un des employés qui a décidé de ne pas prendre ses indemnités de licenciement, etc. Et donc, qui est toujours employé de McDonald's. Mais donc, il n'est plus payé par McDonald's, mais qui a toujours les clés de ce McDonald's. Du coup, ce McDonald's a été réinvesti par les gens du quartier pour pallier un problème d'aide alimentaire d'urgence qui s'est posé dans la première crise Covid, dans le premier confinement, où la plupart des aides alimentaires à Marseille étaient à l'arrêt. Et donc, ils ont mis en place à une poignée de volontaires, une aide alimentaire qui se faisait au guichet du drive du McDo. Et puis, petit à petit, ce lieu donc, est depuis occupé continue ce travail d'aide alimentaire sur des quantités hallucinantes. J'ai aucune mémoire des chiffres, mais c'est quand même vraiment un lourd travail qu'ils font là. Et du coup, aussi, est devenu un lieu de... Donc, c'est vraiment... Ils se sont réappropriés l'outil, le lieu, et ils y réfléchissent ensemble à des actions diverses. Et il y a, entre autres, des potagers qui ont été installés juste devant, pour revenir aussi dans notre thème, des potagers qui ont été installés juste devant, qui sont cultivés par les enfants du quartier. Il y a vraiment une énergie dans ce lieu qui est juste magique pour moi. C'était vraiment une très, très, très belle découverte. J'avais déjà entendu parler de ce truc, mais... y être, ça m'a fait un joli coup.
Ouais, merci. En tout cas, c'est une très belle histoire. On espère que ça peut s'étendre, comme tu dis, en effet tache d'huile et peut-être toucher pas mal de McDo et d'autres chaînes de l'industrie de la restauration rapide. C'est vrai que pour le moment, on voit plus pousser dans le centre-ville de Liège. KFC et McDo qu'un après M ou un après K. Peut-être que la tendance s'inversera, et c'est vrai qu'en tout cas sur la thématique particulière de se nourrir Liège, peut-être que le Covid a eu un effet un peu pas tremplin mais du moins soubresaut sur cette question sociale quoi, qu'on peut mettre en exergue, qui est par moments oublié, peut-être derrière le cliché de on parle d'agriculture repensée, on imagine peut-être directement des gens d'une éducation et d'un certain portefeuille, et de replacer ça dans une idée d'intégrer l'ensemble des catégories sociales. Effectivement, je pense que la mission est grande. Je pense que, comme toutes les missions que vous avez à Urbagora, là, sur ce projet qui va durer 2 ans et qui a l'air assez ambitieux, je vous souhaite
la tout thème, courage. Je pense, a clairement inspiré d'autres initiatives, ou en tout cas, c'est pas la seule initiative à s'être développée depuis le début de ce confinement. On a vu ici à Liège des associations fleurir, ou des aides alimentaires se mettre en place face à l'urgence, des structures se créer comme Sortir du bois par exemple, dont on a déjà un petit peu parlé dans d'autres émissions, qui elle a commencé aussi en apportant une aide alimentaire aux personnes qui logeaient dans les coteaux. Et puis maintenant, qui essaye de fournir des logements temporaires aux personnes sans abri dans des petites caravanes qu'ils rachètent et qu'ils placent dans des terrains, des jardins prêtés par des particuliers ou pas particuliers. Je ne sais pas exactement où ça en est là dans leur projet. Peut-être qu'ils arrivent à mettre des caravanes dans des endroits qui appartiennent à la ville ou à d'autres structures. Mais oui, clairement, je pense que ce type de projet inspire ou en tout cas, c'est pas le seul à s'être mis en place depuis le début du confinement. Et je crois que ça signifie aussi quelque chose sur ce que je disais juste avant, sur ce lien entre les gens, leur alimentation, puisque c'est se loger et se nourrir, c'est quand même un petit peu la base des besoins humains. En tout cas, ça fait partie des besoins primaires. Et pour ça, on va pouvoir aussi en parler par rapport à ça. On va pouvoir aussi discuter, avoir le point de vue d'Émilie plus tard, qui, elle, est sur le terrain aussi par rapport à sur ce genre de thématique. Et voilà, ce sont des choses qui nous ont marquées et on avait envie de les partager avec vous aujourd'hui.
C'était un grand plaisir de le partager. Je pense qu'on pourrait s'étaler vraiment très très longtemps. Enfin, on a l'impression d'avoir qu'effleuré le sujet pour le moment dans cette émission. Mais voilà, on vous invite en tout cas déjà. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à découvrir si vous êtes intéressé par la chose pendant tout ce festival de Nourrir Liège. Donc je vous invite à retrouver tout programme sur nourrirliège.be. Et puis le point... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un point relais, mais du moins le QG qui est Place Cathédrale pendant tout le festival. Et vous pouvez retrouver plein d'informations, plein de choses à lire, à voir, à découvrir pendant ces 2 semaines de festival. Merci beaucoup en tout cas pour Gilles et Diana pour cette présentation, pour avoir évoqué tous ces sujets de manière certes succincte, mais on n'oubliera pas de relayer tout ça également sur nos réseaux, sur l'erreur est urbaine, et je pense également avec Urbagora. Donc vous retrouverez tout ça sur le site internet et sur nos réseaux.
Merci, et donc on rappelle les deux événements principaux, donc ce lundi 10, la rencontre avec les éditions Wild Project, et puis pendant toute la durée du festival, cette randonnée. Et si vous l'entreprenez, ben comptez quand même, allez Gilles, 5-6 heures, si vous avez envie de faire toute la boucle. Donc partez le matin, prenez votre petit pique-nique, de l'eau,
scrutez
les nuages pour partir au moment où il n'y a pas trop de gouttes. Et puis chaussez vos chaussures de marche.
Marie et moi, on l'a fait en partie sous la neige, donc c'est faisable. C'était bien aussi.
On espère peut-être un beau temps, en tout cas, pour ce lundi, mais dans tous les cas, ça se fait. N'hésitez pas, prenez votre courage, à demain. Merci beaucoup. Et on a introduit Émilie, oui, qui va nous parler en deuxième partie d'émission, justement, un peu plus précisément de l'association. Je pense que c'est une association, Les Incroyables Comestibles, et de l'ensemble des actions qui sont proposées par ce collectif. En attendant, on se fait une petite pause musicale, la première. On commence doucement, mais sûrement, par un truc qui bouge quand même. C'est VSSVD ou Assad, et c'est Molo tout de suite. Et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Skip! Un mollo mollo, la sauce arrive, on vit pour la mélo mélo. Les flots varient, on fournit le bédo bédo. Fais nos tarifs, va taffer aux zoos, pélo fais l'otarie. Tellement pas au niveau niveau mec. Pendant je produis rime au kilomètre. Un démon sur l'épaule, une gueule à part. Un doobie pour l'inspi, le stylo père. T'as remis, t'as reçu, promis, j'y vais mollo mollo. Vers ma solo, je finis solo solo. Je mets parmesan dans mes bolo bolo. Plus je suis distant, plus tu follow follow. Hein. Loco loco sont les bails, frère. Mytho mytho, nous on parle, ouais. Mâche au micro, c'est du sale, ouais. Bouge de là, j'arrive en balle, ouais. Je fais plus dans l'à peu près le taf, son pro. Je profane des vers, c'est comme personne gros. Ouais, tu touches au Mia quand je tape d'autres flots. Ouais, tous parlent de maille et moi je parle d'autre chose. Ouais, j'ai vu le vent tourner, j'ai pas des champs pour autant. Ouais, j'ai façonné Smith et t'as pas éteint. Ouais. Ni Forol, ni Baratin, hein. Ni Famas, ni Beretta. Ouais. Tu me dis que là je dois taffer, je dis mollo mollo. Ouais. Tu me dis que là je dois rapper, je dis mollo mollo. Mollo mollo, mollo mollo, mollo mollo, mollo mollo, mollo. Tu me dis que là je dois taffer, je dis mollo mollo. Ouais. Je dois rapper, je dis mollo mollo, 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 mollo mollo.
Parle pas trop vite, t'es un taudis, j'suis un palace. Je suis pas baraque mais je suis solide comme un car.
Je suis très costaud.
T'écoutes Audi tous les samedis dans ta baraque. T'es qu'un comique, yeah. Tu fais le malade. Mais quand je te corrige, docile comme le fils d'un marque. Je défonce les barrages, si tu m'aimes pas tu n'y casses. C'est nous qu'on parade, yeah. Je te fais kiffer comme la montée d'un para. Je remplis la cave, ouais. Cher un godet, un mou hamster, ouais. Je repars à poil dans les backstage, ouais. Ce sont en baisse, ce sont en sage.
Véridique, je tire dans la nuque de ces rapaces. Et que lui qui nous aura, yeah. On a la dalle comme c'est fort, yeah. On a la dalle comme c'est fort, yeah. Elles sont mes voraces, yeah. Y'a que les vrais qui ont de l'audace. Sans baisse tout sans sage, yeah. Sans baisse tout sans sage, yeah.
Tu me dis que là je dois taffer, je dis mollo mollo, ouais. Tu me dis que là je dois rapper, je dis mollo mollo, yeah. Mollo mollo, ouais. Mollo mollo, yeah. Mollo mollo, yeah. Mollo mollo, yeah. Tu me dis que là je dois taffer, je dis mollo mollo, ouais. Tu me dis que là je dois rapper, je dis mollo mollo, yeah. Mollo mollo, ouais.
Je vais tellement leur faire mal, on croirait un best-seller. En club échangiste, on appellerait ça de la baisse céleste. On bouge en ville ce soir, vas-y, sors-nous la belvédère. Je fais n'importe quoi, je prendrai un mur en Mercedes.
Je reçois plus par les buts, j'en ai vu un qui parlait mal, mais devant moi qui parlait plus. Oh shit. Jésus, Marie, Joseph, je suis comme perdu dans la drogue. Et puis je baisse fort la marée chaussée.
On nous dit que c'est pas la mer, mais bizarrement ça m'en a tout l'air. L'argent j'en ai pas vu la couleur, ça fait 30 ans que c'est la même. Et puis très honnêtement je suis saoulé.
Tu me dis que là je dois taffer, je dis mollo mollo, ouais. Tu me dis que là je dois rapper, je dis mollo mollo, yeah. Mollo mollo, ouais. Mollo mollo, yeah. Mollo mollo, mollo mollo, yeah. Tu me dis que là je dois taffer, je dis mollo mollo, ouais. Je dois rapper, je dis mollo mollo, mollo mollo, mollo mollo, mollo mollo.
L'erreur est urbaine sur 48 FM. On est en deuxième partie de l'émission de votre émission, en particulier sur la ville, sur l'urbanisme, sur l'architecture. C'est un samedi sur deux de 10h à midi. L'erreur est urbaine. On parle aujourd'hui d'agriculture urbaine en particulier parce que on a le festival qui vient tout juste de commencer. Nourrir Liège, si vous n'y êtes pas encore allé, allez-y. Vous retrouvez toutes les informations sur le site internet nourrirliège.be ou en vous rendant place de la cathédrale. Ils sont là, leur QG, pour retrouver les informations et tout le programme sur ces deux semaines. C'est jusqu'au 16 mai. On vous invite à y aller, bien sûr, avec Urbagora, qui sera présent, qui est notre partenaire de l'émission depuis... c'est la troisième saison qu'on fait ensemble. Et on avait Diana et Gilles qui nous ont fait un, une belle présentation de justement des actions qui sont initiées par Urbagora en lien avec Nourrir Liège. Et pour cette deuxième partie, nous avons la chance, l'honneur d'avoir avec nous Émilie des Incroyables Comestibles. Merci à toi. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour faire de manière très succincte, puisque je découvre très rapidement, j'avais déjà entendu parler, comme je pense beaucoup de nos auditeurs et auditrices, des Incroyables Comestibles, mais déjà, c'était connaître à la fois ce que c'est précisément l'émission et les actions des Incroyables Comestibles, et quel est ton rôle justement dans ce projet-là, et depuis quand tu es présente, et qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as mis les pieds dans ce projet ?
Alors, avant de répondre à ta question, je vais peut-être juste dire, donc moi je suis Émilie, je suis animatrice au Centre Liégeois du Beaumur, qui est donc une maison d'association, un lieu assez dynamique, militant, citoyen, qui organise pas mal de choses. Et en fait, c'est via donc ce travail en animation au Beaumur que j'ai découvert la dynamique des Incroyables Comestibles. Donc, Incroyables Comestibles, c'est un mouvement international qui est né en 2007 à Todmorden, qui est une petite ville en Angleterre. C'est né dans cette ville de la volonté de deux dames, en fait, qui constataient un manque de lien social au sein de leur ville et aussi une déconnexion totale avec notre alimentation. Et lasse d'attendre que quelque chose de merveilleux arrive de quelque part, elles se sont dit « qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens et citoyennes, pour répondre à ces deux constats, donc le manque de lien social et la déconnexion avec l'alimentation ?» Évidemment, il y avait d'autres constats, mais c'était les deux constats principaux. Et donc, elles ont tout simplement donné rendez-vous dans un café à des gens. Vous voyez, dans le temps avant, on pouvait se voir dans des cafés pour discuter, refaire le monde, voilà.
Une autre époque.
Et en fait, à leur très grande surprise, le café était bondé. Et l'idée, c'était de se dire, si on veut faire quelque chose, en tout cas, si on veut comment toucher le plus grand nombre, il faut que ça parle de quelque chose qui nous touche tous, c'est-à-dire l'alimentation, puisque a priori, on se nourrit trois fois ou plus par jour. Et donc est née l'idée d'investir l'espace public en plantant des légumes, des plantes comestibles, des fleurs qui se mangent, mais surtout des légumes. Parce qu'en plantant dans l'espace public, on crée du lien social, parce que ça crée des espaces de convivialité, ça crée des espaces de rencontres, des espaces de verdure au sein des quartiers, mais aussi ça répond à l'importance de se reconnecter à notre alimentation, puisqu'on se rend compte un peu partout, on ne sait plus quand les choses poussent, puisque tout est à disposition H24, 365 jours sur l'année, il y a des fraises dans les magasins, des courgettes, et voilà. Donc, Incroyable Comestible, en anglais, Incredible Edible, est né de cette petite ville, Todmorden. Et en fait, le mouvement s'est répandu à l'international. Donc, il y a des groupes Incroyable Comestible un peu partout dans le monde. Et notamment en France, ça s'est pas mal développé. Et c'est au détour d'une balade dans le parc de la Chartreuse, donc qui est un des espaces verts, un des derniers poumons verts menacés d'ailleurs de Liège, que je discute avec des personnes et on se dit « t'as déjà entendu parler de ce mouvement, c'est quand même vachement intéressant, est-ce qu'on ferait pas une soirée au Beaumur ?» Ou simplement on parle du mouvement, mais on n'avait pas d'autre idée au départ. Et en fait, comme les deux dames à Todmorden, on a été complètement soufflés par le nombre de personnes qui ont débarqué à cette petite soirée, Gilles t'en était d'ailleurs. Un soir sombre et pluvieux du mois d'avril 2013, il y a eu 125 personnes qui ont débarqué au Beaumur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et en fait, après une brève présentation du mouvement, un petit film qu'on avait chopé sur YouTube, les gens se sont spontanément répartis en quartiers. Et voilà, la dynamique était lancée. La graine avait été plantée. Après, de cette réunion sur les 10 quartiers, il a fallu un peu de temps avant que ça germe, ou en tout cas que ce soit quelque chose de pérenne, voilà. Mais la graine était plantée en 2013, voilà. Mais je m'éloigne peut-être un peu de ta question de base. Donc, en gros, entre 2000, donc moi en tant qu'animatrice au Beaumur, ce qui m'intéressait dans cette soirée où il y a eu tant de monde, c'était de me dire, ben, on a fait à peine une moche affiche et quelques communications par mail, et 125 personnes débarquent, c'est qu'il y a vraiment un intérêt citoyen derrière. Et donc moi, j'avais toujours en tête, malgré tous les autres projets qu'on menait au Beaumur, j'avais toujours en tête que c'était quelque chose qui parlait aux gens et qui avait fondamentalement une place dans toute la question de la reconnexion avec l'alimentation. Je suis quelqu'un de très gourmand et j'adore manger, donc je suis aussi beaucoup investie dans toutes les dynamiques de transition alimentaire. Évidemment, dans le festival Nourrir Liège depuis le début. Depuis 2013, on essaye vraiment au Beaumur de permettre, enfin de mettre en place les choses pour que Incroyable Comestible puisse s'installer durablement à Liège. Voilà, en gros.
C'est une réponse complète, en tout cas. Merci.
Oui, mais si je te lance sur le sujet, moi, je peux parler pendant des heures. Donc,
c'est une belle chose. Ça fait écho, effectivement, à la première qu'il y avait eu, comme tu as dit, en Angleterre. Et du coup, par rapport à... Donc là, c'est plutôt savoir... la suite, quelles ont été donc les actions concrètes qui ont été mises en place par les Incroyables Comestibles ? Est-ce qu'il y a eu un dialogue qui s'est ensuite posé avec la ville, ou est-ce que ça a été un ensemble de groupes locaux qui se sont lancés à faire du jardinage chez eux ou à faire des jardins partagés ?
Alors la question est très juste dans le sens où, dès le départ, en 2013, on a essayé de rentrer en contact avec la ville, enfin, en tout cas à l'époque avec l'échevina de l'environnement. Alors, contact, pourtant, c'était pas faux d'avoir essayé, mais contact complètement infructueux. J'ai même une fois forcé la porte d'une réunion pour essayer d'avoir un contact direct avec l'échevin de l'époque qui nous avait un peu pris, on peut le dire, pour des illuminés. Voilà, donc on a fait, entre guillemets, sans vraiment avoir de contact avec la ville, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, occuper l'espace public avec des légumes, c'est pas si simple que ça. Entre la motivation de base et vraiment avoir l'envie de faire pousser des légumes dans son quartier pour différentes raisons, hein, que ce soit le lien avec l'alimentation, le lien dans le quartier, ou parce qu'on a envie de cultiver un petit lopin de terre et qu'on habite en appartement en ville, voilà. Il y avait en fait cette difficulté pour les personnes qui ne voulaient pas être dans l'illégalité, il y avait cette difficulté d'obtenir l'autorisation. Parce que quand on occupe l'espace public, en tout cas à Liège, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans d'autres villes, mais il faut l'autorisation d'occuper l'espace public, et les gens qui voulaient faire la demande pour installer un espace potager ne recevaient aucune réponse parce que ça ne rentrait pas dans les cases existantes à l'époque de la ville. Donc entre 2013 et 2016, je vais dire, le mouvement, il a été présent, mais pas anecdotique, parce que ça diminuerait un peu ce que tous les gens ont fait, l'impact de ce que les gens ont fait, mais en tout cas, ça s'est fait de manière volontaire, sans autorisation et sans aval de la ville, en fait. Et puis, en 2016, le Beaumur rentre un appel à projet dans le cadre de Liège Souffle Vert, qui était un projet de création artistique qui reconnectait des espaces verts existants. Donc, c'était en fait un parcours qui pointait des espaces verts de la ville de Liège existants et qui accompagnait des groupes pour implanter un dispositif artistique et vert à l'intersection des espaces verts existants. Et donc, nous, on avait postulé, on avait été pris pour installer 15 mètres de potager de part et d'autre de la passerelle. Là, ça a été vraiment le constat que, sur base volontaire et entièrement citoyenne, avec très peu de moyens, on pouvait installer et faire vivre des potagers en plein centre-ville, et que c'était faisable, quoi. Bon, c'était un projet de malade, on était complètement cinglés, on a pelleté 25 tonnes de terre à la pelle, à la brouette. Enfin, voilà, je vous passe les détails, mais en tant qu'aventure humaine, ça a été un truc de dingue, parce qu'on a réussi à le faire, et on a planté des plantes qu'on n'a pas achetées nulle part. C'est des gens qui ont planté des graines alors qu'ils ne l'avaient jamais fait, sur un coin d'appui de fenêtre, dans leur appartement. Enfin, c'était vraiment un truc de dingue. On voyait des gens débarquer pour nous aider. Enfin, voilà. En tant qu'aventure humaine, ça a été vraiment inspirant, et on a voulu laisser ces potagers, mais la ville n'a pas voulu. Mais elle nous a dit, on ne veut pas de vos potagers au pied de la passerelle, mais revenez nous voir quand vous aurez un projet concret, on est ouvert à vous voir. Et donc, l'année d'après, ou quelques mois après, je ne sais plus très bien, un bénévole fort investi à l'époque, Jean-Claude, me dit, « Oh, à Paris, ils ont le permis de végétaliser, c'est quand même super, j'ai contacté la mairie de Paris, ils nous ont filé tous leurs documents, si on lançait le permis de végétaliser à Liège. » Et donc, chose qu'on a fait, on a réinterprété tous les documents de la ville de Paris pour les appliquer à notre volonté d'installer Incroyable Comestible à Liège. Donc, le permis de végétaliser devient l'outil liégeois, légal, entre guillemets, pour intensifier le mouvement. Et donc, l'idée du permis, c'est vraiment que les habitants et habitantes de la ville peuvent introduire une demande qui sera réceptionnée dans un service qui comprend le projet, qui le connaît, et qui est d'accord de donner des autorisations. Et voilà, le permis de végétaliser est donc né en 2017. Et à partir de ce moment-là, on a eu vraiment un contact suivi, constructif, avec les autorités communales. Et c'est à partir de là que moi, je pense que le mouvement peut s'intensifier, parce que... accepter, tolérer, encourager, voilà.
Et donc, depuis 2017, est-ce que tu as une estimation du nombre de permis de végétaliser qui ont été accordés ?
Alors, il faut différencier, en fait, les demandes de permis et les bacs qui sont réellement installés, parce que... comme je le disais tantôt, au-delà de la motivation et vraiment de l'envie de le faire, on peut avoir des freins qu'on n'avait pas calculé. Et donc, il y a des demandes qui ont été introduites pour lesquelles il n'y a jamais eu de bac qui ont vu le jour. Mais grosso modo, on va dire qu'on est à une centaine de permis demandés. La plupart sont autorisés. Il n'y en a que quelques-uns qui ont été refusés par la ville pour des raisons tout à fait valables. Et on a fait le tour au mois de juillet de l'année passée, et il y avait une cinquantaine d'espaces sur lesquels il y avait des bacs. Donc, un espace peut avoir, il peut y avoir un bac, deux bacs, trois bacs, quatre bacs, cinq bacs. Et on parle de bacs parce que pour le moment, on ne peut cultiver qu'en bac. Et ça, c'est vraiment dû à la pollution des sols à Liège. La ville ne peut pas se permettre d'autoriser la culture en pleine terre dans l'espace public, parce qu'on ne connaît pas encore vraiment, on ne maîtrise pas encore la question de la transmission des métaux lourds dans les cultures, et voilà. Voilà, donc je dirais une cinquantaine. Après, là, on a eu énormément de demandes qui ont été rentrées ces derniers temps, et il y a des gros projets, en fait, qui ont rentré une demande, mais qui concernent 5 ou 10 bacs, avec une réflexion de quartier, une installation, vraiment un ancrage dans le quartier. Donc, c'est difficile de quantifier, en fait. Il faut se rendre dans certains quartiers et voir l'ampleur que ça peut prendre, quoi.
Et au niveau des bacs, donc, c'est des bacs qui sont mis à disposition. Est-ce que c'est un achat ? Est-ce que...
Alors, ben, là, on en vient, en fait, au frein et au travail que nous, on fait au Beaumur. C'est-à-dire qu'il y a la dynamique et le concept Incroyable Comestible, et puis il y a la réalité, en fait. Donc, il faut construire un bac. Nous, on n'a pas la capacité ni la volonté de faire à la place. Donc, nous, on essaie de mettre en place les conditions nécessaires pour que le mouvement puisse s'installer et perdurer. Mais on n'offre pas de bac, on n'offre pas de terre. Alors, on peut donner des graines, on fait des ateliers, enfin, on fait quand même pas mal de choses. Mais concrètement, le parrain ou la marraine qui fait une demande de bac doit tout faire. Ce qui est vraiment beaucoup. Donc, il y a des personnes qui achètent des bacs tout faits, il y en a qui en récupèrent, il y en a qui en construisent, il y en a qui font des ateliers au sein du quartier pour en construire. En fait, ça s'est vraiment laissé à l'appréciation de chacun. Aussi, il y a des demandes qui sont complètement individuelles pour embellir une façade, ou c'est une demande qui concerne une association ou un collectif. Et donc là, il y a vraiment un groupe derrière, quoi. Par contre, nous, on a pris le temps ici avec l'arrêt du Covid, etc., de mettre en place toute une série d'ateliers, sur divers sujets, mais notamment sur la problématique de comment trouver de la terre saine alors qu'on est dans une ville où la terre est polluée, qu'on habite en ville, qu'on est peut-être en vélo ou sans voiture, ou qu'on n'a pas les sous pour acheter de la terre. Enfin, comment est-ce qu'on fait quand on veut cultiver? Donc là, on a développé un partenariat avec une personne qui développe des protocoles de création de sols nourriciers au départ de déchets verts. On essaye en fait de lever les freins. On a essayé d'avoir un partenariat avec Intradel qui nous fournit du compost. On a un projet de créer un cadastre des bacs existants, en fait, que la ville, on aimerait bien pouvoir mettre en place une liste de bacs disponibles qui serait déjà là. Je ne sais pas, moi, par exemple, devant la bibliothèque où je vais avec mon gamin, y a un bac en béton complètement moche et vide. On pourrait en faire un cadastre, on pourrait le mettre dans une liste en fait de bacs disponibles pour les gens qui ont envie de se lancer dans le projet mais qui sont complètement découragés par le fait de construire un bac, trouver de la terre, enfin voilà. Donc en fait le projet est toujours en construction, c'est ça qui est super chouette, c'est qu'il y a ce qui existe déjà et puis chaque année on a des nouvelles idées et on essaye nous au Beaumur du coup de faire avancer ça quoi. Donc, ici, l'arrêt total de la maison du Beaumur pendant le premier confinement, j'ai eu beaucoup d'insomnie. mais ça a été très productif et on a enfin mis sur papier tout ce qu'on voulait mettre dans un petit manuel. Ça s'appelle « Petit manuel pour se lancer dans l'aventure des incroyables comestibles ». C'est 40 pages illustrées magnifiquement par Maureen, où on décortique tout et on essaye de donner toutes les clés aux personnes qui ont envie de se lancer dans l'aventure, quoi. De la question politique de l'autonomie alimentaire jusqu'à la construction du bac, comment planter une graine, comment contacter les gens dans son quartier,
Et donc, j'imagine ce carnet, on peut le retrouver peut-être au festival.
Alors, le carnet... La volonté de départ, c'était de ne pas l'imprimer à trop grand exemplaire parce que d'un point de vue écologique, on trouvait que c'était complètement inutile de l'imprimer et puis de le donner à des personnes qui n'auront pas nécessairement l'envie de se lancer dans le projet. Donc, en fait, il est imprimé pour le moment à une centaine d'exemplaires. Il nous en reste 50. Mais par contre, il est téléchargeable. Enfin, elle est téléchargeable sur le site. Il suffit de... Enfin, il y a une version PDF. Une version PDF augmentée de vidéos, photos, commentaires, etc. On peut aussi nous contacter pour l'avoir en version papier. Elle sera visible sur le festival avec des affiches et un petit QR code à télécharger, enfin à scanner, pour avoir accès directement à notre site qui s'appelle donc www.permisdevegetaliser.be. Et il y a vraiment de plus en plus d'informations et de choses intéressantes sur le site quand on a envie de se lancer dans l'aventure, quoi. Que ce soit des questions pratiques ou des questions plus politiques de pourquoi on occupe l'espace public, pourquoi la question de l'autonomie alimentaire est importante. C'est accessible en fait à tout un chacun et chacune. En fonction de ses envies, on peut rentrer dans le projet parce que on est contre le béton en ville et qu'on veut poser un acte concret de reverdurisation de son espace de vie. Mais ça peut être aussi, j'ai un manque de connexion avec la terre et j'ai envie de faire pousser quelques petites choses. Et ce projet-là répond à ça. C'est libre à chacun de rentrer dans le projet par la porte qui l'intéresse.
Merci. Et donc, permis de végétaliser.be.
Oui.
Alors, on a parlé de tout ce qui a été fait là, donc depuis 2013. Forcément, ça a pris du temps. Je me posais quand même la question, donc depuis 2013, est-ce qu'il y a eu d'autres territoires où, autour de Liège, les communes alentours, qui se sont dit « Ah ben tiens, au Beaumur, ils sont en train de faire ça », ou autre part en Wallonie ou en Belgique. Est-ce que vous avez été contacté? Est-ce que vous avez été informé de dynamiques similaires qui se sont lancées depuis 2013 ou avant ou...
Alors, il y a le mouvement international Incroyable Comestible qui existe toujours. Et donc, on est, nous, en contact avec d'autres groupes. Mais il y a aussi certaines villes qui nous ont contactés pour lancer le permis de végétaliser au sein de leur ville. Donc, on a fourni tous nos documents. Maintenant, il y a des villes où l'initiative venait vraiment d'un service de la ville. Et donc, je ne sais pas si derrière, il y a un mouvement citoyen et si ça a pris ou pas. Mais il y a quand même quelques villes, et notamment la ville de Tournai qui a un permis de végétaliser. Enfin, il y en a d'autres, je ne les ai pas en tête comme ça. Donc oui, ça a quand même essaimé. Voilà. Mais voilà, le mouvement de base Incroyable Comestible, il existe partout. Nous, on a essayé de l'accompagner en créant ce permis de végétaliser, mais Incroyable Comestible existe indépendamment de ce que nous, on a créé. Quoi. Nous, le permis de végétaliser, alors on a peut-être mal choisi le nom à l'époque, je ne sais pas, mais il est là vraiment pour... c'est un outil pour accélérer ce mouvement-là à Liège, mais incroyable, parce que parfois on nous dit « Oui, mais vous oubliez les incroyables comestibles en créant ce permis de végétaliser, etc. » Oui et non. Moi, j'avais toujours en tête que si on voulait que ça prenne de l'ampleur, il fallait qu'on ait un soutien de la ville de Liège. Il fallait qu'on soit en relation avec eux. Il faut qu'ils puissent entendre ce que nous, on a envie de faire, ce que les gens ont envie de faire, parce qu'en fait, au Beaumur, on essaye d'être un peu l'intermédiaire entre la parole citoyenne et les instances communales qui ont... c'est une machine de dingue et qui... Enfin, voilà, on ne fait pas bouger ça aussi vite qu'on le voudrait. Et voilà, mais ça avance. Ça avance. Dans le bon
J'imagine
sens.
J'imagine que des fois, la machine n'est pas toujours... Elle ne roule pas complètement huilée. Je me posais la question, effectivement, tu parlais donc des permis de végétaliser. Enfin, je pense qu'il y a eu plein de difficultés. Peut-être, il y a eu la barrière politique qui a l'air de peut-être s'ouvrir un petit peu plus désormais. Je me posais la question, justement, sur les difficultés rencontrées, aussi sur la pérennité des permis de végétaliser, parce que l'idée, c'est de l'engager. Donc, il y a déjà... cette difficulté de il faut mettre des bagues, enfin il faut penser la chose, mais ensuite aussi derrière pouvoir entretenir ces bagues quand c'est une seule personne qui a initié la chose, qui déménage ou des choses comme ça. Est-ce que peut-être dans le carnet où vous êtes déjà posé la question sur qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté et comment pouvoir les contourner ou justement y répondre?
Ben Gilles est bien placé pour parler de comment un bac peut vivre sans ses fondateurs.
Effectivement, clairement. Ben donc comme Émilie le disait, j'étais à la première soirée et on a, avec quelques personnes du quartier, un couple en particulier, on a assez vite lancé le truc dans le quartier des Vennes à l'époque. À l'époque, j'habitais là, je n'y habite plus donc. Ça a été, comme le racontait Émilie, au départ assez compliqué de savoir. On a essayé d'avoir les autorisations et tout. Aucune réponse nulle part, donc on l'a fait. Et ces bacs sont toujours là. Et donc moi, j'ai déménagé 2-3 ans après, pas tellement en plus. Donc ces bacs ont été... installé, entretenu, l'histoire pour ramener de la terre, c'était aussi assez épique. Hein. J'épargne les détails. Mais effectivement, on s'est posé la question quand nous, on déménageait, comme on était vraiment juste tout près, et l'autre couple qui s'activait beaucoup sur ce bac-là, ayant déjà bougé à l'époque. Et en fait, c'est de nouveau par le Beaumur. Je pense qu'il y avait de nouveau une soirée incroyable comestible où on a réussi à rencontrer des gens qui habitaient dans le quartier, qui souhaitaient en faire, et on leur a dit que ce bac-là était disponible et n'avait plus de parrain, je dirais. Je ne connais pas toute l'histoire de ce bac depuis. À mon avis, Émilie en sait plus que moi. Donc, c'est le bac qui se trouve derrière l'église Saint-Vincent, dans un petit bout de parc, quoi. Mais je constate à chaque fois que j'y passe que ça continue à être entretenu, qu'il y a eu des réparations sur les constructions qui ont un peu vieilli entre-temps, bien sûr, donc de tout un truc en bois de récup. Voilà. Et donc, ce bac continue à vivre.
Oui, il continue à vivre. Et en fait, ce bac est un peu, pour moi, vraiment emblématique. Et j'y tiens beaucoup parce qu'à l'époque, donc Gilles le dit, il n'y avait pas d'autorisation. Vous l'avez installé en 2013 et les autorisations, elles arrivent seulement en 2017. Et puis, je crois que c'est en 2018, on reçoit un mail de la ville au Beaumur. Elle nous dit « Ah, vous connaissez le parrain marraine qui a derrière ce bac là, il n'y a plus personne, on nous a dit que machin, enfin… » Voilà, il faudrait régulariser ou alors on l'enlève. J'ai dit hop, 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 le Beaumur va devenir parrain marraine de ce bac, voilà. Et puis, il se fait en fait que, voilà, comme tout le monde, on est un peu à la bourre dans nos projets, machin et tout, on ne prend pas le temps d'aller réparer le bac. Et puis, en fait, il n'y a pas besoin, quoi. Parce qu'officiellement, c'est notre nom derrière, mais une année, il y a eu une dame qui s'en est occupée. C'est la dame dont tu parles, que tu as rencontrée à la soirée qu'on fait chaque année de lancement de la saison. Et puis, par Facebook, il y a une autre dame qui me connaît, qui me contacte, qui me dit « je peux m'occuper des bacs ». Je dis « ben oui, ils sont là pour ça ». Voilà, ils les ont réparés, ils sont lancés dans l'aventure avec un groupe du quartier. Et en fait, le bac, il vit. Donc, c'est notre nom qu'il y a derrière. On est responsable du bac, mais on n'a pas besoin d'y aller, quoi, parce qu'il est là et qu'en fait, ça répond à une demande quand même. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il nécessiterait une bonne grosse réparation ou un bon gros lifting, mais il est là, il est entretenu, il est cultivé. L'année passée, il y avait des tomates, il y avait une mini-serre qui avait été installée. Enfin, voilà. Donc, ce bac vit toujours, mais il est régularisé, donc maintenant, il a son permis. Tout va bien. Et donc, peut-être dire que nous, au Beaumur, on est… donc, si par exemple, il y avait un bac qui n'était pas entretenu, nous, la ville, avant de faire quoi que ce soit sur les bacs qui existent, elle va d'abord nous contacter, nous, parce qu'elle a reconnu qu'en fait, c'était nous, on est le contact avec les personnes actives dans le projet. Et donc, ça va d'abord être nous qui allons prendre contact avec le parrain ou la marraine et essayer de voir un peu ce qui se passe, etc. Et si le parrain ou la marraine a déménagé, ben on va essayer de trouver quelqu'un d'autre pour devenir un peu le parrain ou la marraine, en sachant que parfois le parrain et la marraine ne fait pas grand-chose parce qu'il y a d'autres personnes qui se le sont appropriées, c'est très bien, et c'est ça qui est super dans le projet. Maintenant, c'est aussi l'apprentissage de se dire, moi, en tant que parrain et marraine, est-ce que je suis d'accord de faire pousser des choses et que ce ne soit pas moi qui les récolte? C'est aussi une question intéressante dans le projet. C'est aussi un apprentissage de changer un peu de regard sur comment notre société fonctionne, quoi. C'est moi qui plante une courgette, mais ce n'est pas moi qui vais la récolter. C'est OK, c'est ça qui est super. Et c'est gratuit. Et en fait, voilà, je crois que ce genre de projet… Ça autorise à rêver à une société telle qu'on la voudrait, en fait. Ça pose pas mal de questions. Une ville plus verte, une ville sans argent, où il y a la solidarité, où personne ne meurt de faim. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses, en fait, qui peuvent surgir de ce genre de dynamique. Et moi, je crois aussi que vraiment à la présence symbolique de ces bacs dans l'esprit de tout un chacun. Et c'est en ça qu'on essaye de penser le projet en éducation permanente, c'est-à-dire de se dire, c'est des bacs qui sont présents dans la vie des gens, dans leur vie de tous les jours, dans leur quartier, etc., même s'ils n'y prennent pas part. c'est quelque chose qui est là et qui peut-être un jour les fera venir dans le projet ou non. Et inversement, les bacs existent parce qu'il y a des gens qui se sont posés des questions et qui ont envie de plonger dans le projet, quoi. Voilà.
Un beau projet, en tout cas. Ça continue, ça tient, ça continue, ça se développe. Donc, c'est chouette à voir, d'en croiser, j'ai envie de dire, de les rencontrer au détour d'une rue. Il y avait une grosse dernière question sur un peu la suite des Incroyables Comestibles et leur position et ce qu'ils vont pouvoir proposer pendant le festival Nourrir Liège, mais je propose qu'on a un petit peu de temps, on va s'écouter un petit morceau et on se retrouve juste après, cette fois-ci donc en lien avec le thème. On aime bien avoir une petite chanson qui nous rappelle ce dont on est en train de parler. C'est Jean-Claude Watrin, c'est Prenez le chemin des bois. On se retrouve juste après, à tout de suite.
tout seul, sans personne. Les enfants du ciel, dans le temple de la Game City. Tout seul, sans personne.
Rory est urbaine.
Retour dans L'erreur est urbaine sur 48FM, l'émission qui vous parle un samedi sur deux de 10h à midi d'urbanisme, d'architecture, de patrimoine. Et aujourd'hui, on vous parle plus particulièrement d'agriculture urbaine en lien avec le festival Nourrir Liège qui vient de se lancer ce 6 mai et qui est là jusqu'au 16 mai. Vous retrouvez toutes les informations sur nourrirliège.be ou les retrouver en journée, place de la cathédrale. On est avec Émilie des Incroyables Comestibles et qui fait partie des animatrices du Beau Mur. On a parlé du permis de végétaliser et on allait voir avec toi qu'est-ce qui est prévu justement par les Incroyables Comestibles et par le Beau Mur dans le cadre de Nourrir Liège. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, alors dans le cadre de Nourrir Liège, on a prévu, on a une soirée qu'on prépare depuis longtemps finalement, on l'a fait un peu à minima dans le sens où on ne fait pas venir les personnes qu'on voulait rencontrer, mais on les verra derrière un écran, mais ce sera quand même vraiment bien. Donc on a des contacts avec la ville de Nantes. Alors la ville de Nantes, en mars 2020, elle lance un projet qui s'appelle Paysage nourricier. C'est-à-dire qu'en fait, ils identifient une cinquantaine d'espaces dans la ville de Nantes et ils les mettent en culture. Donc, c'est vraiment la ville. Donc, c'est un service de la ville qui plante des légumes dans l'espace public nantais pour faire face à la crise. Donc, avec un objectif de production alimentaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'Incroyable Comestible, en tout cas, pas dans l'état actuel du projet. On est encore loin de produire de la nourriture en quantité, quoi. Notre objectif est plutôt symbolique ici à Liège. À Nantes, l'objectif, c'est de produire des légumes pour faire face à la crise. Et donc, on les invite, un an après le lancement du projet, à partager en fait les objectifs du projet Paysage nourricier et de nous faire un peu un état des lieux de qu'est-ce qu'on a réussi à récolter, comment ça s'est passé, tout ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé ou qui doit être amélioré. Donc, ce sera une soirée assez intéressante. Donc, ça se passera sous le dôme d'Arsenic à Herstal. Donc, le public liégeois pourra être en présentiel. Il y a jusqu'à 50 places dans le dôme. Les personnes de Nantes seront en visioconférence parce qu'on n'a pas pris le risque de les faire venir vu les incertitudes sanitaires, les quarantaines et tout ça. Enfin, on s'est dit que ce n'était pas l'année pour faire voyager des gens. Et ce sera diffusé en Facebook Live aussi pour les personnes qui ne savent pas se rendre à Herstal. Voilà, j'espère que ce sera une soirée inspirante et j'espère aussi que nos interlocuteurs de la ville seront également à l'écoute et seront partants pour en discuter après pour voir dans quelle mesure on pourrait pas s'en inspirer à Liège. Ça, c'est une chose. Alors, on a cet après-midi, donc samedi après-midi, à 13h, 14h30 et 16h, on a des ateliers qui sont organisés par les professeurs de l'école d'horticulture de la ville de Liège, des ateliers potagers en bac, donc que planter dans un bac, comment créer un sol vivant dans un bac, parce que c'est vraiment ça l'important. La culture en bac est une culture assez particulière. Et donc, c'est des ateliers donnés par les professeurs de l'école d'horticulture, mais dédiés au projet des Incroyables Comestibles. On sera évidemment présent cet après-midi pour répondre aux questions, échanger avec les gens et passer vraiment un moment constructif en extérieur à l'école d'horticulture. Et alors, on a encore une balade qu'on a déjà testé et qu'on avait envie de refaire dans le cadre de Nourrir Liège. C'est une balade qui va à la rencontre de bacs incroyables comestibles existants, mais qui passe par un espace vert important dans la ville de Liège. Donc, on démarre au-dessus de la gare Palais. On passe voir les bacs en pierreuse et l'incroyable dynamique qu'il y a en pierreuse. On monte par le Péri, on passe par les coteaux. petit moment de, dans, voilà, en pleine nature, en pleine ville. Et on atterrit à Saint-Léonard, où il y a quand même pas mal de bacs aussi et une bonne dynamique de quartier. Et puis un retour au QG, pour, au QG Place Cathédrale pour ramener les gens là-bas pour le marché court-circuit qui a lieu l'après-midi. Ça, c'est donc le jeudi, que je ne me trompe pas dans les dates, le jeudi 13 mai à 14h. Mais à l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'il reste des places ou pas. Donc voilà.
Faudra regarder ça.
Mais l'idée qu'on a au Beaumur, c'est de créer d'autres balades du même type, donc qui présentent des bacs, un quartier, une dynamique, qui passent par un espace vert existant, parce qu'on est vraiment très sensible à défendre aussi les espaces verts existants. Et qui atterrit dans un autre quartier où il y a aussi des bacs. Et donc, on a l'ambition de créer une petite brochure avec des balades, mais très courtes, hein, genre 3-4 km, accessibles à tout le monde. Voilà. Donc, même si elle n'est pas faisable par tout le monde ici le jeudi 13 mai, elle sera disponible prochainement via une petite brochure ou un lien téléchargement sur le site, très probablement. Voilà.
Donc, pas mal de projets pour Incroyable Comestible, ça continue, ça se développe de ce qu'on voit, il y a une belle inspiration.
C'est, bah, après, d'un point de vue perso, moi, c'est vraiment un truc qui m'habite et voilà, je mets toute mon énergie dans ce projet-là et l'équipe aussi au Beaumur. Mais c'est vrai qu'avec le ralentissement des activités au sein du Beaumur et toutes les autres activités qu'on n'a pas pu maintenir, en fait, c'est un projet qu'on a pu continuer, même quand on a été confinés, on a pu faire des ateliers en ligne. Limite, c'était même mieux pour certaines choses parce qu'on a eu des intervenants d'autres pays. Voilà, on a pu, on a réussi à maintenir le lien avec les personnes investies dans le projet. Et surtout, je pense que ça répond en fait à des interrogations que les gens ont eues. Avec cette crise sanitaire qui est arrivée sans crier gare et qui nous a en fait mis devant nos fragilités et nos fragilités d'un point de vue santé, mais notre fragilité en termes d'approvisionnement de nourriture, enfin de PQ aussi apparemment, mais de nourriture. Voilà, c'est entre guillemets devenu un peu le projet phare. Enfin, ça l'était déjà, mais c'est vrai qu'avec ce qu'on vient de vivre pendant un an, ça l'est encore plus. Et voilà.
Merci.
Merci
beaucoup, Émilie. Y a pas mal de choses à dire et peut-être d'autres questions de la part des autres personnes présentes. Peut-être Gilles, peut-être Éloi, peut-être Diana, peut-être Mathilde. Vous avez d'autres interrogations ou sinon, je... moi, j'en avais une. Alors, je prends la main. C'est donc par rapport à notamment, je rebondissais sur ce qui était proposé par Nantes. Bon, c'est un projet très ambitieux. Il y a peut-être des jardins partagés qui sont en train d'éclore à droite à gauche. Est-ce que les Incroyables Comestibles se positionnent un petit peu dessus, essaient d'apporter leur expertise ou leur soutien? Ou est-ce que au niveau temps, ça vous prend déjà pas mal de temps, déjà tout ce que vous avez à faire ou...
En fait, il y a des personnes qui sont investies dans des potagers collectifs. Donc la différence entre Incroyables Comestibles et potagers collectifs, c'est que Incroyables Comestibles, c'est dans l'espace public, y a pas, on ne sait pas qui nécessairement on vient planter, semer, etc. Et c'est dans un bac, un potager collectif. Souvent, on connaît les personnes qui sont investies dans le projet. En fait, il y a des personnes qui sont venues participer à nos ateliers, qui nous ont contactés parce qu'ils sont confrontés à la problématique de la pollution des sols et qui donc ont fait marche arrière. Oh, on ne va pas planter en pleine terre parce que pollution des sols, parce que voilà. Et donc, qui participent à nos ateliers ou qui sont finalement maintenant dans notre réseau. Parce qu'on répond à des questions liées à ça et qui donc vont créer des bacs avec de la nouvelle terre ou du nouveau substrat parce qu'ils ne veulent pas cultiver dans une terre qui est polluée. Et donc, en fait, ce lien se fait un peu de manière naturelle, mais c'est vrai qu'on n'a pas vocation à accompagner des potagers collectifs pour la simple et bonne raison qu'on, nous, on n'est pas des maraîchers, on n'est pas des experts en agriculture. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et en même temps, c'est pas grave. Nous, notre travail, c'est d'animer un projet citoyen Bah, qui parle de transition, qui parle de plein de choses. Et voilà. Et au fur et à mesure, bah, les personnes ressources, on les trouve pour si on a des questions précises. Mais voilà, on n'est pas des maraîchers et on ne le sera pas. On ne va jamais prendre cette posture-là, quoi. Mais voilà, on a quand même ce lien avec les potagers collectifs, en tout cas certains qui ont décidé de changer de tactique après analyse des sols, quoi.
Ouais. Merci beaucoup, Émilie, pour cette belle et grande présentation des incroyables comestibles à Liège. On a pris le temps et c'était chouette de prendre le temps avec toi de pouvoir balayer toutes les actions qui avaient été mises en place, que le projet continue, qu'il a une belle dynamique et qu'on peut donc le retrouver. On le dit et on le redit sur le festival Nourrir Liège. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Et puis, on relaiera bien entendu à la fois la page des incroyables comestibles et sur la nôtre tous les projets qui ont été faits. Donc, la Voie Urbaine, vous retrouvez toutes les informations et tout ce que vient de présenter Émilie aujourd'hui sur notre page Facebook très prochainement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous aussi. Et donc, www pour un permis de végétaliser.be.
Et on repartage aussi. Merci, Émilie. On se fait une dernière petite pause musicale avant notre petite pause bonus avec Mathilde, la marquise, qui revient juste après. Rebonjour, marquise. On se retrouve juste après.
À tout de suite.
À tout de suite. Donc là, on se fait un petit truc. Alors, je ne sais pas qui l'a proposé sur notre belle liste musicale. J'espère que vous l'appréciez tout autant que nous. Là, c'est un truc à la fois tout neuf et tout liégeois. C'est Mel. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à écouter. On écoute ça. Son nouveau morceau qui vient tout juste de sortir, c'est Persévère. À tout de suite.
C'est ma maison. C'est ma maison. Fabriquée avec mes mains. Tôle après tôle. Vous y êtes comme à l'hôtel, et gratis. Que le diable vous emporte. Vous chasserez tous de chez moi. La famille, c'est comme les godasses. Plus qu'elles vous serrent et plus elles vous font mal.
Prise en défaut par des pensées, une part semée, égarée. Je garde en moi un sentiment fané, comme vidé, sûrement égaré dans un vice d'orgueil né, flashé de danger d'un amour avorté. C'est si peu dire que j'aurais préféré connaître le bonheur ailleurs que sur une TV. Peut-être pendant que mes parents se trébuchaient, renvoltés. Le son de la porcelaine qui poursuivait ses peines sur le sol, le damier esquivait les traînes. C'est pas la rosée du matin qui me réveillait fraîche, mais les pleurs de ma mère sur le divan et de bonheur. Comment je pourrais dire que tes actions reste en tise quand souvent je ferme les yeux comme pour les fuir. Ou bien souvent je priais sans nom pour m'aguerrir, à implorer le pardon qui coule en moi au fond. Les larmes comme pour seule attention. Le danger, c'est quand tu serres les poings que l'émotion reprend le train pour oublier tous les dégâts d'une vie misère colmatée. Briser la chaîne sans se retourner, c'est comme créer sa volonté pour avancer. Le danger, c'est quand tu serres les poings que l'émotion reprend le train pour oublier tous les dégâts d'une vie misère colmatée. Briser la chaîne sans se retourner, c'est comme créer sa volonté pour avancer. Comment nier ce qui naît d'une vérité pour laquelle on se mutait, mulant lutte qui se battait pour faire entendre procès. Un cri sans voix qui répétait arrête d'orge, ta force c'est le désordre qui mène l'ordre. Objection de telle sorte que la phalange se frotte et croque mon choc. Attention, dite nature frêle, s'abstenir de ces tensions. Ou voir ne suffit pas pour calmer ce tourbillon en moi. C'est une murose que mon corps se mute et cloisonné, chiproque que les vides percutent. C'est une finosse que le sort se termine, brise glacée d'un vent de marée. Ça le faisait marrer à mesure où mes pieds me traînent. C'est pas sécure que mes pensées s'aiment. De semaine en semaine, j'anticipe la nuit d'après en capitaine. Le bateau coulé, force est de constater que c'est pas sans peine. Danger, c'est quand tu serres les poings que l'émotion reprend le train pour oublier tous les dégâts d'une vie misère colmatée. Briser la chaîne sans se retourner, c'est comme créer sa volonté pour avancer. Le danger, c'est quand tu serres les poings que l'émotion reprend le train pour oublier tous les dégâts d'une vie misère colmatée. Briser la chaîne sans se retourner, c'est comme créer sa volonté pour avancer. J'appelle le maillon d'un art révolté, le cri d'une louve qui hurle danger à toutes ces voix oubliées qu'on ne cite.
dites jamais assez. À tous les combats menés, à qui on donne la force pour avancer. Tête haute, tête haute, on continue de se réparer. Tête haute, danger, tête haute, on persévère.
L'erreur est urbaine sur 48FM, c'est l'émission qui vous parle de la ville, de l'architecture, du patrimoine et aujourd'hui plus particulièrement d'agriculture urbaine. On était avec Émilie, des incroyables comestibles, qui nous a parlé notamment du permis de végétaliser. Si vous n'en avez pas entendu parler, vous pouvez retrouver tout ça sur permisdevégétaliser.be et on vous informe aussi, on vous a informé tout au long de l'émission, justement c'était en lien avec le festival qui vient juste de s'ouvrir ce jeudi et qui est là jusqu'au 16, c'est Nourrir Liège. Vous retrouvez toutes les informations sur le site internet nourrirliège.be et dans le QG Place Cathédrale qui sera là tous les jours jusqu'au 16 mai. Donc petit hors d'œuvre, c'est notre dernière partie, notre partie favorite, du moins la partie favorite de la Marquise pour intervenir. La Marquise qu'on n'a pas vue depuis un petit moment. Je ne sais pas où vous étiez, on vous a attendu pas mal de fois, mais enfin, vous êtes là parmi nous. Merci Marquise.
Écoutez, ça me fait plaisir aussi. Je me suis quelque peu retirée à la campagne, mon petit Alexandre. Et je suis très heureuse d'être de retour parce que depuis tout à l'heure, vous me faites rire. Mais vous me faites rire. Oh, comme vous êtes comique, brave Jean. Comme vous êtes naïf. L'agriculture en ville, un secteur d'avenir. Nourrir l'humanité. Ah, quelle blague. Bien. Enfin, soyons sérieux. Et abandonnons les champs de patates à un secteur en plein essor dans votre petit pays grâce au réchauffement climatique, le tourisme. C'est l'occasion pour moi de vous présenter, sans une certaine émotion, mon nouveau héros. En la personne de mon arrière-grand-cousin par alliance au troisième degré, j'ai nommé le comte d'Ursel. Ne restez pas ainsi la bouche en cul de poule, Manon. L'on sait que vous n'êtes même pas au fait de l'identité de vos suzerains. Mais sans doute avez-vous déjà entendu parler de la cité de Durbuis, que dans le surréalisme qui vous caractérise, vous vous plaisez à désigner comme la plus petite ville du monde. Ce qui est une faute, hein. La plus petite ville du monde, c'est la ville d'Ulm en Croatie, si mes informations sont exactes. Petite ville, certes, mais gros capital touristique, cela la bourgeoisie de basse extraction qui préside aujourd'hui aux destinées du monde l'a bien compris. La perspective de posséder sa propre petite ville pittoresque a attiré le milliardaire flamand Mark Cook, tel le vautour sur le chevreau faisandais, afin de compléter sa collection de signes extérieurs de domination, comprenant déjà un club de foot et une collection d'animaux exotiques captifs pour le bon plaisir de la foule. Notre homme ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de transformer un lieu historique et peuplé d'autochtones en un parc d'attractions à la gloire de son complexe de taille. Il a commencé par étendre l'Adventure Valley de manière pharaonique, privatisant au passage le meilleur coin à champignons de la région, des espaces agricoles et un petit paquet de zones habitables que n'habiteront plus ni les sangliers ni les ardennais. Attention, ce sont deux espèces fort ressemblantes pour l'œil non avisé. Via ferrata, tyrolienne, escape game, kayak, bowling, traverse, enfin à Durbuis, tout pour se prendre pour des Robinson Crusoe à prix d'or, dans un décor entièrement artificiel, avant de passer une nuit à 250 euros dans une tente style africain au glamping. Qu'est-ce que le glamping ? Comprenez contraction de glamour et camping. Donc, c'est un moyen de vous facturer la nuit sous la tente auprès d'une suite 5 étoiles. Les merveilles du marketing. Au milieu de tout cela, le gueux local se casse comme il peut. S'il a de la chance, dans une maison préfabriquée dédaignée par le touriste hollandais de plus en plus loin des commodités, ou sinon, entassé dans des caravanes dans les campings pas glam du tout, qui ont échappé à l'avidité de Marc.
Afin d'acter son annexion de la ville et de ses environs, Sa Majesté a imposé un énorme hôtel sur la place centrale de Durbuy, là où tout visiteur s'arrêtait autrefois prendre un verre ou un repas au temps béni du monde d'avant. Ainsi défigurée, toute la ville est soumise à son conquérant. Toute ? Non. Vous me voyez venir avec ma référence franco-française, hein ? Face à la vulgaire masse carrée de l'hôtel, se dresse, toujours plus haut et visible des environs, le château ancestral des comtes d'Urcel. Aussi anachronique que cela puisse paraître, Stéphane d'Urcel, dixième duc d'Urcel, oui, ils ont gagné un rang au passage, habite toujours le château. Je vous laisse imaginer avec quelle concupiscence notre Marco lorgne sur cet attribut de la vieille noblesse pour en faire le château de Disneyland de son nouveau temple du tourisme de masse. Pour l'instant, le duc ne semble pas décidé à lui accorder cette faveur. Mais sait-on jamais, les temps sont durs pour l'aristocrate décadent, je suis moi-même réduite à chroniquer pour les babacools, et je crains que l'appât du gain et de la tranquillité ne pousse le bon Stéphane à céder ce dernier symbole au capitalisme dévorant. Je profite donc de cette tribune pour lui lancer un appel. Stéphane, beau cousin, tiens bon! Tiens bon pour les gueux de Durbuy qui vivent en caravane et qui s'émerveillent quand tu leur ouvres les portes de ton jardin ou de ta brasserie. Rappelle à ces parvenus de la bourgeoisie qu'il y a des choses qu'ils ne posséderont jamais. La culture, la noblesse du cœur, bon ça ils ne comprendront pas, mais ton château, ça leur fera les pieds. Tu peux compter sur mes soutiens. Les fidèles de la marquise de Montpérou sont avec toi, Stéphane. Je suis Marc d'Urcel. Non, attendez. Je suis comte d'Orcel. Non, je suis Marc d'Orcel. Ah, zut. Ah, famine indépendante. Rétablissez l'aristocratie. Libérez Durbuy. Libérez Durbuy.
Merci. Voilà, merci, marquise. Merci beaucoup, je sens que la marquise est de plus en plus engagée là. Je sais pas, vous allez glisser à gauche là bientôt.
Non, ah non, non, je me bats contre la bourgeoisie et les parvenus, mais enfin, j'en arriverai pas à défendre le pouvoir du prolétariat. Tout de même, il y a des limites.
Il y a des limites, vous n'avez pas de limites, marquise. Merci non. beaucoup pour cette chronique, vous nous aviez manqué avec votre plume bien acerbe. On a senti que vous étiez libéré et que peut-être l'émission vous avait manqué malgré tout ce que vous dites sur nous. J'ai senti une certaine belle énergie qui qui était.
Oui, votre amour me manque, l'amour de mon peuple me manque quand je ne suis pas avec lui.
Le peuple s'incline, la rareté urbaine s'incline devant la marquise. Un grand plaisir de vous retrouver le mois prochain peut-être ou une autre
qui
fois.
Sait. Qui sait où mes aventures me mèneront.
La marquise est assez aventureuse. On ne sait jamais quand elle vient et quand elle repart. Merci beaucoup à elle et à toutes et ceux qui ont participé à cette émission. Merci beaucoup Diana. Merci beaucoup Gilles. Merci Émilie. Et donc, on vous rappelle, on parlait de tourisme avec la marquise, mais c'était avant tout d'agriculture urbaine qu'on parlait pendant cette émission. Donc, qu'on a le festival Nourrir Liège qui s'installe depuis le 6 jusqu'au 16 mai, place Cathédrale. Vous pouvez retrouver tout le programme sur nourrirliège.be. On a parlé des incroyables comestibles. C'est eux notamment qui ont lancé à Liège le projet des permis de végétaliser. Vous retrouvez toutes les informations sur permisdevégétaliser.be. Merci beaucoup à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs de nous écouter. On se retrouve le mois prochain, deuxième samedi du mois, avec un grand plaisir, avant peut-être une pause estivale. Je ne sais pas si mes chroniqueurs ou chroniqueuses ont quelque chose à rajouter. Eh ben, je crois que tout le monde...
Au mois prochain.
Au mois prochain, avec grand plaisir.
À bientôt. Merci à Émilie.
Merci à tous.
Merci à vous.
Et merci beaucoup. Une très belle après-midi à vous toutes et tous. Et donc, on se dit au mois prochain. C'était L'Erreur est Urbaine. On se quitte comme d'habitude en musique. À nouveau avec un truc liégeois. On avait envie d'être très, très liégeois aujourd'hui. C'est un plaisir de mettre en avant les artistes locaux. Cette fois-ci, c'est Isadora, Life Make Us Stronger. Bon après-midi à toutes et tous et à bientôt. Ciao, ciao.
Gonna get out of all this, becoming stronger. Oh, you hit below the bed and your unkindness, without forgetting you need to put everyone down to feel a bit better. Made me sure of something, I never wanna be like you. You say you're sorry, but I can't forgive you. You say, oh, you're sorry, but I can't forgive you no more. After years I feel so traded, and it left me a bitter taste. Things never happen like we think they are going to. Gonna get out of this story. Wanted to become better than I am. Wanted to fight for what I think is good, for what is right, for what I want. You say you're sorry, but I can't forgive you. You say, oh, you're sorry, but I can't forgive you no more, no more. My world had to stop, but however, I'm gonna get up. Continue walking on my path with a little light from our mistakes. Everyone's lives continue, that's alright. We see when it will happen to them. You say you're sorry, but I can't forgive you. You say, oh, you're sorry, but I can't forgive you no more. No more, no more. Life makes us stronger. Life makes us stronger. And that's what I am in the day of today. Life makes us stronger. Life makes us stronger. That's what I am in the day of today. Today, life makes us stronger. Life makes us stronger. That's what I am in the day of today. But in fact, I'm so tender. I'm so tender. Facing life and its vagaries. But in fact, I'm so tender, you're so tender, we're so tender. Facing life and its vagaries, no, 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 no.
Merci beaucoup.